Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans le cadre de Lectures en liberté, nous revenons ce soir sur le roman de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Et aux aventures de Bardamu, pris dans le tourbillon de la guerre 14-18. Je discernais très bien la route à ce moment. Et puis, posé sur les côtés, sur le limon du sol, les grands carrés et volumes des maisons, aux murs blanchis de lune, comme de gros morceaux de glace inégaux, tout silence, en bloc pâle. Serait-ce ici la fin de tout? Combien y passerais-je de temps dans cette solitude après qu'il m'aurait fait mon affaire? Avant d'en finir? Et dans quel fossé, le long duquel de ces murs, il m'achèverait peut-être d'un coup de couteau? Ils arrachaient parfois les mains, les yeux et le reste. On racontait bien des choses à ce propos et des pas drôles. Qui sait? Un pas du cheval. Encore un autre suffirait. Ces bêtes trottent chacune comme deux hommes en souliers de fer collés ensemble avec un drôle de pas de gymnastique, tout désuni. Mon cœur au chaud, ce lapin, derrière sa petite grille des côtes, agité, blotti, stupide. Quand on se jette d'un trait du haut de la tour Eiffel, on doit sentir des choses comme ça. On voudrait se rattraper dans l'espace. Il garda pour moi secrète sa menace, ce village, mais toutefois pas entièrement. Au centre d'une place, un minuscule jet d'eau glougloutait pour moi tout seul. J'avais tout pour moi tout seul ce soir-là. J'étais propriétaire enfin de la lune, du village, d'une peur énorme. J'allais me remettre au trot. Noirceur sur la lys, ça devait être encore à une heure de route au moins, quand j'aperçus une lueur bien voilée au-dessus d'une porte. Je me dirigeai tout droit vers cette lueur. Et c'est ainsi que je me suis découvert une sorte d'audace, déserteuse, il est vrai, mais insoupçonnée. La lueur disparut vite, mais je l'avais bien vue. Je cognai, j'insistai, je cognai encore, j'interpellai très haut, mis en allemand, mis en français, tour à tour, pour tous les cas, ces inconnus bouclés au fond de cette ombre. La porte finit par s'entr'ouvrir, un battant. « Qui êtes-vous ? » fit une voix. « J'étais sauvé. Je suis un dragon. Un français ?» La femme qui parlait, je pouvais l'apercevoir. « Oui, un Français. »« C'est qu'il en est passé ici tantôt des dragons allemands. Ils parlaient français aussi, ceux-là. »« Oui, mais moi, je suis Français pour de bon. »« Ah !» Il avait l'air d'en douter. « Où sont-ils à présent ? » demandai-je. Ils sont repartis vers Noirceur sur les 8 heures, et elle me montrait le nord avec le doigt. Une jeune fille. Un châle, un tablier blanc, sortaient ainsi de l'ombre à présent jusqu'au pas de la porte. « Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ?» que je lui ai demandé, les Allemands. Ben, « Ils ont brûlé une maison près de la mairie, et puis ici ils ont tué mon petit frère avec un coup de lance dans le ventre. Comme il jouait sur le pont rouge en les regardant passer, tenez, elle me montra. Il est là. » Elle ne pleurait pas. Elle ralluma cette bougie dont j'avais surpris la lueur, et j'aperçus, c'était vrai, au fond, le petit cadavre couché sur un matelas habillé en costume marin, et le cou et la tête livides autant que la lueur même de la bougie dépassait d'un grand col carré bleu. Il était recroquevillé sur lui-même, bras et jambes et dos recourbés, l'enfant. Le coup de lance lui avait fait comme un axe pour la mort par le milieu du ventre. Sa mère, elle, pleurait fort, à côté, à genoux, le père aussi. Et puis ils se mirent à gémir encore, tous ensemble. Mais j'avais bien soif. « Vous n'avez pas une bouteille de vin à me vendre ?» que je demandais. « Faut vous adresser à la mère. Elle sait peut-être s'il y en a encore. Les Allemands nous en ont pris beaucoup tantôt. » Et alors elles se mirent à discuter ensemble à la suite de ma demande et tout bas. « Il n'y en a plus !» qu'elle revint m'annoncer la fille. « Les Allemands ont tout pris. Pourtant, on leur en avait donné de nous-mêmes, et beaucoup. »« Ah oui alors qu'ils en ont bu !» que remarqua la mère qui s'était arrêtée de pleurer du coup. « Ils aiment ça !»« Et plus de 100 bouteilles, sûrement !» ajouta le père, toujours à genoux, lui. « Il n'y en a plus une seule alors !» insistai-je, espérant encore, tellement j'avais grand soif, et surtout de vin blanc bien amer, celui qui réveille un peu. « Je veux bien payer ?»« Il n'y en a plus que du très bon. Il vaut 5 francs la bouteille !» consentit alors la mère. « C'est bien !» Et j'ai sorti mes 5 francs de ma poche, une grosse pièce. « Va en chercher une !» lui commanda-t-elle tout doucement à la sœur. La sœur prit la bougie et remonta 1 litre de la cachette un instant plus tard. J'étais servi. Je n'avais plus qu'à m'en aller. « Ils vont revenir ?» demandai-je, inquiet à nouveau. « Peut-être, » firent-ils ensemble, « mais alors ils brûleront tout. Ils l'ont promis en partant. » « Je vais aller voir ça. »« Vous êtes bien brave. C'est par là, » que m'indiquait le père dans la direction de Noirceur sur la Lys. Même il sortit sur la chaussée pour me regarder m'en aller. La fille et la mère demeurèrent craintifs près du petit cadavre enveillé. « Reviens, » qu'elle lui faisait de l'intérieur. « Rentre donc, Joseph, t'as rien à faire sur la route, toi. » « Vous êtes bien brave, » me dit-il encore, le père, et il me serra la main. Je repris au trot la route du nord. « Leur dites pas que nous sommes encore là, au moins !» La fille était ressortie pour me crier cela. « Ah, ils verront bien, demain, » répondis-je, « si vous êtes là. » J'étais pas content d'avoir donné mes 100 sous. Il y avait ces 100 sous entre nous, ça suffit pour haïr 100 sous et désirer qu'ils en crèvent tous. Pas d'amour à perdre dans ce monde, tant qu'il y aura 100 sous. « Demain, » répétaient-ils, eux, douteux. Demain, pour eux aussi, c'était loin, ça n'avait pas beaucoup de sens, un demain comme ça. Il s'agissait de vivre 1 heure de plus, au fond, pour nous tous. Et 1 seule heure dans un monde où tout s'est rétréci au meurtre, c'est déjà un phénomène. Ce ne fut plus très bien long. Je trottais d'arbre en arbre et m'attendais à être interpellé ou fusillé d'un moment à l'autre. Et puis rien. Il devait être sur les 2 heures après minuit, guère plus, quand je parvins sur le faîte d'une petite colline, au pas. De là, j'ai aperçu tout d'un coup, en contrebas, des rangées et encore des rangées de becs de gaz allumés. Et puis, au premier plan, une gare, tout éclairée, avec ses wagons, son buffet, d'où ne montait cependant aucun bruit. Rien. Des rues, des avenues, des réverbères, et encore d'autres parallèles de lumière, des quartiers entiers, puis le reste autour, plus que du soir, du vide à vide, autour de la ville, tout étendu, elle étalée devant moi, comme si on l'avait perdue, la ville, tout allumée et répandue au beau milieu de la nuit. J'ai mis pied à terre, et je me suis assis sur un petit tertre, pour regarder ça, pendant un bon moment. Cela ne m'apprenait toujours pas si les Allemands étaient entrés dans Noirceur. Mais comme je savais que dans ces cas-là, ils mettaient le feu d'habitude s'ils étaient entrés, et s'ils n'y mettaient point le feu tout de suite à la ville, c'est sans doute qu'ils avaient des idées et des projets pas ordinaires. Pas de canon non plus, c'était louche. Mon cheval voulait se coucher, lui aussi. Il tirait sur sa bride, et cela me fit retourner. Quand je regardais à nouveau du côté de la ville, quelque chose avait changé l'aspect du tertre devant moi. Pas grand-chose, bien sûr, mais tout de même assez pour que j'appelle « Et là, qui va là ?» Ce changement dans la disposition de l'ombre avait eu lieu à quelques pas. Ce devait être quelqu'un. « Gueule pas si fort !» me répondit une voix d'homme lourde et enrouée, une voix qui avait l'air bien française. « T'es à la traîne aussi, toi, qu'il me demande de même ?» À présent, je pouvais le voir. Un fantassin, c'était, avec sa visière bien cassée à la classe. Après des années et des années, je me souviens bien encore de ce moment-là. Sa silhouette sortant des herbes, comme faisaient des cibles au tir autrefois dans les fêtes des soldats. Nous nous rapprochions. J'avais mon revolver à la main. J'aurais tiré sans savoir pourquoi un peu plus. « Écoute, qu'il me demande, tu les as vus, toi ?»«
Non. »«
Mais je viens par ici pour les voir. »«
T'es du 145e dragon ?»«
Oui, et toi ?»
Moi, je suis un réserviste.
Ah, que je fis. Ça m'étonnait, un réserviste. Il était le premier réserviste que je rencontrais dans la guerre. On avait toujours été avec des hommes de l'active, nous. Je ne voyais pas sa figure, mais sa voix était déjà autre chose que les nôtres, comme plus triste, donc plus valable que les nôtres. À cause de cela, je ne pouvais m'empêcher d'avoir un peu confiance en lui. C'était un petit quelque chose.
« J'en ai assez, moi, » qu'il répétait. « Je vais aller me faire paumer par les boches. » Il cachait rien. « Comment que tu vas faire ?»
Ça m'intéressait soudain plus que tout son projet. Comment qu'il allait s'y prendre, lui, pour réussir à se faire paumer ?«
Bah, je sais pas encore. »
Comment que t'as fait toujours pour te débiner, c'est pas facile de se faire paumer.
Je m'en fous, j'irai me donner.
T'as donc peur ?
J'ai peur.
Et puis je trouve ça con, si tu veux mon avis. Je m'en fous des Allemands, moi. Ils m'ont rien fait.
Tais-toi, que je lui dis, ils sont peut-être à nous écouter.
J'avais comme envie d'être poli avec les Allemands. J'aurais bien voulu qu'il m'explique celui-là pendant qu'il y était, ce réserviste. Pourquoi j'avais pas de courage non plus, moi, pour faire la guerre, comme tous les autres. Mais il n'expliquait rien, il répétait seulement qu'il en avait marre. Il me raconta alors la débandade de son régiment la veille au petit jour à cause des chasseurs à pied de chez nous qui, par erreur, avaient ouvert le feu sur sa compagnie à travers champs. On les avait pas attendus à ce moment-là, ils étaient arrivés trop tôt, de 3 heures sur l'heure prévue. Alors, les chasseurs, fatigués, surpris, les avaient criblés. Je connaissais l'air. On me l'avait joué.
Au Critérion Bar, après la débine, je faisais la barmède pour les Norvégiens. Les gars des cargos m'appelaient leur frangine. J'ai gagné 10 bob en un tournement. Après le business, sur le quai des Brumes et la rue Grand Pont, c'était le Chabanais. On m'appelait Nelly et le passé se rallume afin que je puisse distinguer tes traits. Tu venais me chercher dans la lumière blême d'un sale petit jour, sans sèche et sans blé. On rentrait se coucher le ventre en carême dans ma chambre meublée, rue des Cordeliers. Je pouvais dormir en me fichant de l'ardoise, ma bouche entrouverte, souriait au plaisir. La vie n'est très belle que pour les bourgeoises. Le meilleur du lot, c'est pour le souvenir. Quand tu t'es taillé de Rouen et de ses fêtes pour jouer au griffon dans le camp de Mourmelon, je t'ai dit adieu en tournant la tête et je t'ai donné ma bénédiction. On a pris pour salader des dernières cuites au bar Nielsen, rue de la Vicomté. Puis, fil en aiguille, fallut faire la guerre. Une fleur au fusil, des ampoules aux pieds. J'ai dans la mémoire une chanson qui bouge, le nom des patelins où t'as dérouillé. Carency, Ablin, le cabaret rouge, la route de Bapaume où tu es resté. J'ai bien fait d'éteindre la lanterne magique qui déroulait le fil de tes 22 ans. Quand je m'appelais Nelly, comme sur l'ancien disque d'avant ton départ. Pour le régiment.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
De nouveau le voyage au bout de la nuit après la pause musicale habituelle. Moi, tu parles si j'en ai profité, qu'il ajoutait. Robinson, que je me suis dit. C'est mon nom, Robinson. Robinson Léon. C'est maintenant ou jamais qu'il faut que tu les mettes, que je me suis dit. Pas vrai ? J'ai donc pris par le long d'un petit bois, puis là, figure-toi, que j'ai rencontré notre capitaine. Il était appuyé à un arbre. Bien amoché, le piston, en train de crever qu'il était, il se tenait la culotte à deux mains, à cracher, il saignait de partout en roulant des yeux. Il n'y avait personne avec lui, il avait son compte. « Maman, maman !» qu'il pleurnichait, tout en crevant et en pissant du sang aussi. Fini ça que je lui dis, « Maman, elle t'emmerde !» Comme ça, dis donc, en passant, sur le coin de la gueule, tu parles si ça a dû le faire jouir, la vache. Hein, vieux, c'est pas souvent, hein, qu'on peut lui dire ce qu'on pense au capitaine. Faut en profiter. C'est rare. Et pour foutre le camp plus vite, j'ai laissé tomber le barda et puis les armes aussi, dans une maracanard qui était là à côté. Figure-toi que moi, comme tu me vois, j'ai envie de tuer personne. J'ai pas appris. J'aimais déjà pas les histoires de bagarres, déjà en temps de paix. Je m'en allais. Alors tu te rends compte, dans le civil, j'ai essayé d'aller en usine régulièrement. J'étais même un peu graveur, mais j'aimais pas ça à cause des disputes. J'aimais mieux vendre des journaux du soir dans un quartier tranquille où j'étais connu autour de la Banque de France. Place des Victoires, si tu veux savoir. Rue des Petits Champs, c'était mon lot. Je dépassais jamais la rue du Louvre et le petit palais royal d'un côté, tu vois d'ici. Je faisais le matin les commissions pour les commerçants, une livraison l'après-midi, de temps en temps je bricolais, quoi, un peu manœuvre. Mais je veux pas d'armes, moi. Si les Allemands te voient avec des armes, hein, t'es bon. Tandis que quand t'es en fantaisie, comme moi maintenant, rien dans les mains, rien dans les poches, ils sentent qu'ils auront moins de mal à te faire prisonnier, tu comprends ? Ils savent à qui ils ont affaire. Si on pouvait arriver à poil aux Allemands, c'est ça qui vaudrait encore mieux. Comme un cheval. Alors il pourrait pas savoir de quelle armée qu'on est. Ben c'est vrai ça. Je me rendais compte que l'âge, c'est quelque chose pour les idées. Ça rend pratique. C'est là qu'ils sont, hein. Nous fixions et nous estimions ensemble nos chances et cherchions notre avenir comme aux cartes dans le grand plan lumineux que nous offrait la ville en silence. On y va ? Il s'agissait de passer la ligne du chemin de fer d'abord. S'il y avait des sentinelles, on serait visé. Peut-être pas, fallait voir. Passer au-dessus ou en dessous par le tunnel. faut nous dépêcher, qu'a ajouté ce Robinson. C'est la nuit qu'il faut faire ça. Le jour, il n'y a plus d'amis. Tout le monde travaille pour la galerie. Le jour, tu vois, même la guerre, c'est la foire. Tu prends ton canard avec toi ? J'emmenais le canard. Prudence, pour filer plus vite si on était mal accueillis. Nous parvîmes au passage à niveau, levés des grands bras rouges et blancs. J'en avais jamais vu non plus des barrières de cette forme. Il n'y en avait pas des comme ça aux environs de Paris. Tu crois qu'ils sont déjà entrés dans la ville, toi ? Ben c'est sûr qu'il a dit. Avance toujours. On était à présent forcés d'être aussi braves que des braves à cause du cheval qui avançait tranquillement derrière nous, comme s'il nous poussait avec son bruit. On n'entendait que lui. Toc et toc, avec ses fers. Il cognait en plein dans l'écho, comme si de rien n'était. Ce Robinson comptait donc sur la nuit pour nous sortir de là. On allait au pas tous les deux au milieu de la rue vide, sans ruse du tout, au pas cadencé encore comme à l'exercice. Il avait raison, Robinson. Le jour était impitoyable de la terre au ciel. Tel que nous allions sur la chaussée, on devait avoir l'air bien inoffensif tous les deux, toujours bien naïf même, comme si l'on rentrait de permission. T'as entendu dire que le premier hussard a été fait prisonnier tout entier, dans l'île. Ils sont entrés comme ça qu'on aurait dit, ils savaient pas, hein, le colonel devant, dans une rue principale, mon ami, ça s'est refermé par devant, par derrière, des Allemands partout, aux fenêtres partout, ça y était comme des rats qu'ils étaient faits, comme des rats, tu parles d'un filon. Ah les vaches ! Ah dis donc, ah dis donc ! On n'en revenait pas, nous autres, de cette admirable capture si nette, si définitive. On en bavait. Les boutiques portaient toutes leurs volets clos. Les pavillons d'habitation aussi, avec leurs petits jardins par devant, tout ça bien propre. Mais après la poste, on a vu que l'un de ces pavillons, un peu plus blanc que les autres, brillait de toutes ses lumières à toutes les fenêtres, au premier comme à l'entresol. On a été sonné à la porte, notre cheval toujours derrière nous. Un homme épais et barbu nous ouvrit. « Je suis le maire de Noirceur, » qu'il a annoncé tout de suite sans qu'on lui demande. « Et j'attends les Allemands. » Et il est sorti au clair de lune pour nous reconnaître, le maire. Quand il s'aperçut que nous n'étions pas des Allemands, nous, mais encore bien des Français, il ne fut plus si solennel, cordial seulement, et puis gêné aussi. Évidemment, il ne nous attendait plus. Nous venions un peu en travers des dispositions qu'il avait dû prendre, des résolutions arrêtées. Les Allemands devaient rentrer à Noirceur cette nuit-là, il était prévenu et il avait tout réglé avec la préfecture, leur colonel ici, leur ambulance là-bas, etc., etc. Et s'ils entraient à présent, nous étant là, ça ferait sûrement des histoires, ça créerait sûrement des complications. Cela, il ne nous le dit pas nettement, mais on voyait bien qu'il y pensait. Alors il se mit à nous parler de l'intérêt général. Dans la nuit, là, dans le silence où nous étions perdus, rien que de l'intérêt général. Des biens matériels de la communauté, du patrimoine artistique de Noirceur confié à sa charge, charge sacrée s'il en était une, de l'église du XVe siècle notamment, s'ils allaient la brûler, l'église du XVe, comme celle de Condé-sur-Isère à côté, hein, par simple mauvaise humeur, par dépit de nous trouver là, nous. Il nous fit ressentir toute la responsabilité que nous encourions. Inconscients jeunes soldats que nous étions. Les Allemands n'aimaient pas les villes louches où rôdaient encore des militaires ennemis. C'était bien connu. Pendant qu'il nous parlait ainsi à mi-voix, sa femme et ses deux filles, grosses et appétissantes blondes, l'approuvaient fort de ci, de là, d'un mot. On nous rejetait en somme. Entre nous flottaient les valeurs sentimentales et archéologiques, soudain fort vives, puisqu'il n'y avait plus personne à Noirceur dans la nuit pour le contester. Patriotique, moral, poussé par des mots, fantôme qu'il essayait de rattraper le maire, mais qui s'estompait aussitôt vaincu par notre peur et notre égoïsme à nous, et aussi par la vérité pure et simple. Il s'épuisait en de touchants efforts, le maire, ardent à nous persuader que notre devoir était bien de foutre le camp tout de suite à tous les diables, moins brutal certes, mais tout aussi décidé dans son genre que notre commandant Pinson. De certains, il n'y avait à opposer décidément à tous ces puissants que notre petit désir à nous deux de ne pas mourir et de ne pas brûler. C'était peu. Surtout que ces choses-là ne peuvent pas se déclarer pendant la guerre. Nous retournâmes donc vers d'autres rues vides. Décidément, tous les gens que j'avais rencontrés pendant cette nuit-là m'avaient montré leur âme. Bah, « c'est bien ma chance !» qu'il remarqua Robinson, comme on s'en allait. « Tu vois, si seulement t'avais été un Allemand, toi, comme t'es un bon gars aussi, tu m'aurais fait prisonnier, et ça aurait été une bonne chose de faite. » On a du mal à se débarrasser de soi-même en guerre. Et toi, que je lui ai dit, si t'avais été un Allemand, tu m'aurais fait prisonnier aussi. T'aurais peut-être alors eu une médaille militaire. Elle doit s'appeler d'un drôle de mot en allemand, leur médaille militaire, hein. Comme il ne se trouvait toujours personne sur notre chemin à vouloir de nous comme prisonniers, nous finîmes par aller nous asseoir sur un banc dans un petit square et on a mangé alors la boîte de thon que Robinson Léon promenait et réchauffait dans sa poche depuis le matin. Très loin, on entendait du canon à présent, mais vraiment très au loin. S'ils avaient pu rester chacun de leur côté, les ennemis, et nous laisser là tranquilles. Après ça, c'est un quai qu'on a suivi. Et le long des péniches, à moitié déchargées dans l'eau, allongées, on a uriné. On emmenait toujours le cheval à la bride derrière nous, comme un très gros chien. Mais près du pont, dans la maison du passeur, à une seule pièce, sur un matelas aussi, était étendu encore un mort, tout seul, un Français. Commandant de chasseurs à cheval, qui ressemblait d'ailleurs un peu à ce Robinson comme tête. « Tu parles qu'il est vilain, me fit remarquer Robinson. Moi, j'aime pas les morts. » Le plus curieux que je lui répondis, c'est qu'il te ressemble un peu. Il a un long nez comme le tien et toi, t'es pas beaucoup moins jeune que lui. Ce que tu vois, c'est par la fatigue, forcément, qu'on se ressemble un peu tous. Mais si tu m'avais vu avant, quand je faisais de la bicyclette tous les dimanches, ah, j'étais beau gosse! J'avais des mollets, mon vieux, du sport, tu sais. Et ça, ça développe les cuisses aussi. On est ressorti. L'allumette qu'on avait prise pour le regarder s'était éteinte. Tu vois, c'est trop tard, tu vois. Une longue raie grise et verte soulignait déjà au loin la crête du coteau à la limite de la ville dans la nuit. Le jour. Un de plus. Un de moins. Il faudrait essayer de passer à travers celui-là encore comme à travers les autres, devenus des espèces de cerceaux de plus en plus étroits et tout rempli avec des trajectoires et des éclats de mitraille. « Tu reviendras par ici, toi, dis, la nuit prochaine ?» qu'il demanda en me quittant. « Il n'y a pas de nuit prochaine, mon vieux. Tu te prends donc pour un général. Je pense plus à rien, moi, qu'il a fait pour finir. À rien, t'entends ?» Je pense qu'à pas crever. Ça suffit. Je me dis qu'un jour de gagné, c'est toujours un jour de plus. T'as raison. Au revoir, vieux, et bonne chance. Bonne chance à toi aussi. Peut-être qu'on se reverra. On est retourné chacun dans la guerre. Et puis, il s'est passé des choses et encore des choses qu'il n'est pas facile de raconter à présent. À cause que ceux d'aujourd'hui ne les comprendraient déjà plus. Nous avons terminé pour ce soir cette lecture du roman de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, que nous reprendrons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez en écouter le podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.